bonsoir et bienvenue à l'ère du diable. Nous allons ce soir écouter une expérimentation réalisée à partir d'entretiens. Je garde pour l'instant secret le nom des participants puisqu'il s'agit d'une expérimentation préliminaire, donc une primeur de quelque chose qui n'est pas identifié. Vous êtes à l'antenne de CKUT 90,3 Montréal, CKUT.ca. Et c'est l'émission L'ère du diable avec Erika Dumaine.
Il aimait gravir un sommet, enfin, il était très sensible à certains paysages, justement. Il explique dans le mode d'existence ce qu'il appelle le rapport magique aux choses, et c'est pas du tout le rapport au merveilleux, hein, mais c'est le rapport justement à ces choses qui, quand elles sont uniques, les promontoires, etc., ont un caractère très fort pour. Ce vivant qu'est l'homme.
Bien sûr, qui est mixé à la radio. C'est lié à ce qui. C'était l'émetteur du Mont Pilat, c'était pas seulement le Mont Pilat en tant que montagne, hein, qui était intéressant, c'est l'émetteur du Mont Pilat. Et du coup, ça devient. Ces lieux, d'autres deviennent d'intérêt, puis une occasion de marche.
Parce que je me suis installé en 50 à Tours, et à ce moment-là, j'ai connu Simoneau. Simoneau s'est marié moi je me suis marié en 47, et Simoneau a dû se marier en 48, un an après. Alors le départ de Simoneau, je vous raconte tout, hein. Le départ de Simoneau, c'était un homme, il est difficile à dessiner, il est difficile à définir, il était non pas très enfermé, mais il était un peu mystique, un peu dans le fond, dans son genre. Et quand moi j'habitais avec mon épouse, rue Froidevaux, qui est une rue à côté de la tour, enfin, pas loin de la tour Eiffel, une vieille rue, il n'y avait pas de logement à ce moment-là à Paris, alors c'était difficile. Et j'entends frapper un soir à ma porte, on dit je vais te marier. C'était Simoneau qui partait pour se marier. Mais il avait demandé ce qu'il voulait faire, c'est accomplir un vœu. Et il voulait partir de Paris à pied. C'était pendant plein hiver, c'était je ne sais plus à quelle date, et il s'est présenté à la maison avec un parapluie et des chaussettes. Et il s'en allait à pied de Paris à Tours pour se marier à Tours, à l'église de Tours. Et il est parti à 11h du soir de chez moi, il a dû coucher dans les bois d'Antony, et le lendemain, il est arrivé à Tours. Les beaux-parents étaient... La messe était fixée à je ne sais pas quelle heure. Lui, il est arrivé juste pour se marier. Les parents étaient affolés parce qu'il n'était pas là. Enfin, il est arrivé, il était toujours bien habillé, mais il avait couché dehors, il avait accompli son vœu.
C'est une sorte de rituel initiatique avant son mariage. C'est-à-dire il s'est imposé, mais est-ce qu'il a fait toute la distance entre Paris et Tours? Il n'a pas dû faire toute la distance,
pied.
Non? T'es sûr, non?
C'était un vœu,
mais c'était une sorte de rite initiatique qui s'est imposé.
Je ne suis pas gâteux du tout.
Avant son mariage.
J'ai envie de vous dire la chose suivante, c'est que l'un des auteurs avec lesquels sans doute il est le plus en phase par rapport à la nature, c'est Rousseau. Il décrit dans un de ses textes Rousseau qui s'oppose aux encyclopédistes Diderot et les autres, précisément parce que pour Rousseau, ce qu'on pourrait appeler le technicisme des encyclopédistes leur fait perdre leur relation à la nature, qui est une relation à l'élément terre, c'est-à-dire à la nature dans ce qu'elle a d'éléments, dans ce qu'elle est, c'est-à-dire d'abord un élément au sens, par exemple, des éléments dont parlent les philosophies antiques, comme les physiologues ioniens, par exemple. Et il présente Rousseau comme justement étant en face des encyclopédistes, celui qui connaît, a vécu et sent la nature dans une immédiateté, dans un rapport immédiat qui est le rapport à l'élément. Rousseau, c'est celui qui a voyagé à pied, c'est celui qui a dormi dehors, c'est celui qui s'est abrité dans des buissons et qui a le sens des endroits qui sont sécurisants et des endroits dangereux. Il a le sens de la nature et de la nature sauvage, et il épuise quelque chose de l'ordre d'une vitalité. C'est pourquoi Rousseau va critiquer par exemple les progrès purement citadins des arts et des lettres. Alors je crois que pour lui c'est exactement la même chose, pour Gilbert Simondon c'est exactement la même chose. Il avait cette connaissance de la nature, il avait marché. Il avait fait des marches qui duraient plusieurs jours, et je crois vraiment qu'il a reconnu en Rousseau comme ça une sensibilité très proche de la sienne. Mais c'est une interprétation. Ce qui est certain, c'est que la nature, même dans l'agriculture, à ses yeux, le rapport à la nature n'est pas un rapport d'usage ou un rapport, je dirais, d'habitation, où on va chercher ce qui est confortable, etc. C'est un rapport à quelque chose qui a une dimension très vaste, effectivement un peu sacré, hein, comme une dimension qui est celle de l'élément, hein, l'élément dont toute chose est faite, etc. Et c'est vraiment vécu chez lui, c'est senti, c'est vécu.
L'ascension, l'exploration et plus généralement tout geste de pionnier consiste à adhérer au point clé que la nature présente. Gravir une pente pour aller vers le sommet, c'est s'acheminer vers le lieu privilégié qui commande tout le massif montagneux, non pour le dominer ou le posséder, mais pour échanger avec lui une relation d'amitié. Homme et nature ne sont pas à proprement parler ennemis avant cette adhésion au point clé, mais étrangers l'un par rapport à l'autre. Tant qu'il n'a pas été gravi, le sommet est simplement un sommet, un lieu plus haut que les autres. L'ascension lui donne le caractère d'un lieu plus riche et plus plein, non abstrait, lieu par où passe cet échange entre le monde et l'homme. Le sommet est un lieu à partir duquel tout le massif est vu de manière absolue, alors que toutes les vues des autres lieux sont relatives et incomplètes, faisant désirer le point de vue du sommet. Pourtant, elles sont valables selon la pensée magique, parce qu'elles permettent de prendre contact avec ce continent en un lieu privilégié qui est un point clé. L'univers magique est fait du réseau des lieux d'accès à chaque domaine de réalité. Il consiste en seuil, en sommet, en limite, en point de franchissement, rattachés les uns aux autres par leur singularité et leur caractère exceptionnel.
Prof de philo, en voyant que je m'appelais Simondon, m'a dit « Vous êtes la fille du philosophe ?» J'ai dit « Non, pas du tout, mon père est psychologue. » Puis après, j'ai réfléchi en me disant « Si, tu dois être la fille du philosophe quand même. » Ça doit être ça. Et voilà, donc j'en ai pris conscience très tard. Si vous voulez, pour nous, il était prof. C'était pas un philosophe, c'était un prof. Il avait un métier, c'était professeur. Donc je m'intéressais pas spécialement au contenu de son métier, si vous voulez, au contenu intellectuel. Proprement dit.
Avec les autres, il était très respectueux. J'ai du mal à trouver un autre mot que celui-là, respectueux de ce que l'autre était, de ce que l'autre souhaitait faire, de ce que l'autre projetait de faire. Par exemple, pour ses étudiants, ses anciens étudiants que j'ai connus m'ont souvent dit qu'il était peu directif parce qu'il nous laissait vraiment mener à bien nos projets. Et de même qu'il était avec nous, les enfants, peu directif, mais encourageant une sorte d'initiative personnelle. Il était, je crois, surtout très sensible au fait que chacun a son projet, chacun a sa personnalité, bien sûr, mais son projet. Et il fallait pour lui laisser les gens devenir ce qu'ils avaient à devenir, d'une certaine façon, dans une sorte de respect du développement individuel de quelqu'un. De même que quand il lisait un auteur, on le voit bien dans ses écrits, quand il rencontre de philosophie, il fallait, avant de passer à une critique rapide ou avant de passer aux remarques destinées à faire apparaître l'insuffisance d'une pensée, il fallait d'abord entièrement pénétrer la pensée de quelqu'un, le comprendre jusqu'au bout, comprendre véritablement son intention et saluer son effort. D'une certaine manière, c'était donc une façon positive d'accueillir l'autre. C'est un petit peu comme ça que j'aurais envie de le dire. Je dirais surtout que il ne montrait aucune différence de conduite à l'égard de quelqu'un qui aurait été son égal, professeur à la Sorbonne ou, disons, un notable, et à l'égard des gens qu'il pouvait rencontrer, par exemple, à l'endroit où nous allions en vacances, je dirais la maison familiale, où il discutait beaucoup avec les artisans en particulier, les paysans, les artisans, où il avait des discussions très développées sur leur métier, sur les outils qu'ils employaient, sur les difficultés qu'ils pouvaient rencontrer dans leur vie professionnelle, les difficultés économiques, les difficultés en tout genre. Donc il avait beaucoup d'échanges avec les gens, pour dire les choses ainsi, pour les relations, je dirais, sociales. C'était vraiment une grande capacité d'échanger. C'est d'abord un philosophe qui était instruit jusqu'au bout de la totalité des pensées depuis la mythologie, la naissance des religions, la critique de la religion, la critique de la croyance. Enfin, d'une certaine manière, sa pensée pouvait surplomber tout cela. Donc, pour un philosophe comme lui ou les autres, une croyance ou un rapport au sacré ne pouvait pas avoir tout à fait le même sens. En revanche, ce qui... Certes, ce qu'il nous montrait dans sa conduite, c'est qu'il n'était pas question de se conduire mal à l'égard des êtres qui pouvaient être méprisés par d'autres. Et donc, bien sûr que pour lui, il y avait du sacré. Le refus de la cruauté par ignorance de ce que c'est qu'un animal, que tel ou tel animal, c'est bien une certaine manière de montrer qu'on considère que c'est sacré. C'est sûr qu'il accordait une grande importance dans la culture à la religion ou à la religiosité. Ça, il n'y a aucun mépris de sa part pour cela, loin de là. Et sans doute, le rapport au sacré est un rapport important. Hein. Il se trouve que tous les hommes détestent certains animaux, par exemple. Nous avons la haine des araignées, c'est très commun, des serpents. Alors, à ses yeux, il fallait quand même comprendre d'où venait cette haine. Il ne s'agit pas non plus d'imposer un amour pour toute chose, ça n'aurait rien voulu dire. Alors, par exemple, il analyse la crainte des araignées ou des serpents à partir de la manière dont les araignées et les serpents prennent en défaut notre perception. C'est que là, nous savons très bien comment marche un chien, un chat, nous pouvons prévoir les mouvements du chat et du chien. Les mouvements d'une araignée, c'est beaucoup plus difficile, avec toutes ces pattes qui partent dans tous les sens. On n'a pas du tout cette polarité avant, enfin devant et derrière qu'on a pour le chien. Donc il faut d'abord comprendre ce qui motive la haine des choses pour surmonter la haine des choses.
La technique en général et l'objet technique était une sorte de médiation entre l'homme et la nature. Et donc il était impur et dur de la défense de la nature au sens de l'interdiction de changer quoi que ce soit ou de toucher quoi que ce soit. Je pense qu'il était normal pour lui que l'homme soit en prise avec la nature et la transforme en fonction de ses besoins, mais dans certaines limites et avec, comme on disait tout à l'heure, une compréhension. Et je crois que la clé de sa position écologique, là, c'est la même chose, c'est la compréhension de ce qu'on fait. Et donc du fait qu'il y a des limites et des choses qui sont à la fois inutiles, dangereuses, qui sont du gaspillage, il était très opposé au gaspillage.
Je pense qu'il y a la chose de nourrir, on a tout à fait l'exemple de l'objet technique, des hommes qu'à nature.
Le rapprochement qui vient à l'esprit, c'est sur les feux. Le fait de démarrer un feu en pleine nature et ce fameux four de berger qu'il avait fait pour nous. Mais alors, on faisait pas vraiment de la cuisine dessus. On faisait chauffer une casserole quand même. Mais c'était surtout la construction du four. Alors, ça, oui. Là, on avait fait un joli four, un four de berger avec une avancée. Sur quelle planche de l'encyclopédie il avait pris ça, mais on en avait fait un qui nous intéressait beaucoup. Il nous apprenait à démarrer le feu.
Oui, je disais à propos de ces souvenirs que, effectivement, moi j'ai des souvenirs d'une période pendant laquelle, en fait, j'ai compris d'ailleurs ça plus tard, si vous voulez, mais que c'est une période pendant laquelle mon père concevait ce qu'il a écrit par la suite, ou à peu près à ce moment-là d'ailleurs. Autrement dit, rétrospectivement, en quelque sorte, il m'apparaît qu'il était profondément plongé dans la conception de ses ouvrages, dans la mise en place de ses idées, dans tout ce processus qui était un processus pour lui d'éclaircissement, de choix d'exemples, de, de démonstration, etc. Et donc, en fait, il me semble que finalement, il avait un peu besoin d'en parler, parce que ça lui permettait à lui, en quelque sorte, de s'éclaircir les idées. Et nous étions, d'une certaine façon, pas uniquement ça, mais d'une certaine façon, nous étions un peu un auditoire qui lui permettait de préciser ce qu'il avait en tête. Et donc, au cours des promenades, ou même des discussions à la maison, eh bien, les explications qu'il nous donnait, je crois, étaient quand même un peu liées au fait que c'était le sujet principal qu'il travaillait, et donc c'était une chose qu'il avait besoin un petit peu de formuler, d'extérioriser. Alors, il nous montrait des exemples d'objets, alors, pas seulement d'objets techniques, mais quelquefois, et il déroulait un petit peu les caractéristiques de l'objet, ses fonctionnalités, ses utilités. Quand c'était un outil, par exemple, eh bien, il parlait des gens qui l'utilisaient ou qui l'avaient conçu. Et effectivement, je crois que tout ça, c'était des éléments de sa réflexion en cours. Mais ça nous permettait aussi à nous de voir qu'effectivement, il avait pour les objets, pour les gens qui les utilisaient, pour les gens qui les concevaient, il avait beaucoup de respect. C'est quelque chose qu'il nous a communiqué. Et quand vous demandez s'il était en ligne, en quelque sorte, dans sa vie avec ce qu'il a écrit, je dirais quand même que oui, globalement, c'est assez vrai. Et c'est même très vrai, je crois. Il avait des convictions qui lui étaient très personnelles et qu'il a ensuite décrites dans ses livres de façon beaucoup plus argumentée, beaucoup plus solide, beaucoup plus philosophique, mais intuitivement et personnellement, oui, il était bien comme ça, oui. Respectueux des objets, respectueux des gens, respectueux de la nature. Enfin bon, c'était des éléments qui nous apparaissaient de façon assez évidente, quoi.
Derrière ce qu'il écrit, je reconnaît un certain nombre de réactions qui étaient des réactions presque viscérales, affectives. Enfin, bien sûr, c'est un livre de philosophie, c'est très pensé, c'est très écrit, mais il y a aussi la personne derrière, le caractère, ce qu'il aimait, ce qu'il aimait pas. Oui, bien sûr, c'est très vivant. Oui, oui, oui.
D'origine et de toute confession, l'armée vous parle. L'armée française avait fait le serment solennel de garder l'Algérie dans la souveraineté française. Ce serment, nous l'osons aujourd'hui au nom de l'armée vous le renouveler.
Important questions of principle, such as the following: Are the U.S. interests, are the What is the reliable way to prevent the imperialists from unleashing a world war and to safeguard world peace? To defend world peace and serve the interests of revolution, should we unite the workers, peasants, revolutionary intellectuals, the anti-imperialists and anti-feudal revolutionaries among the national bourgeoisie, and all other forces of the world that can be united? And form the broadest possible united front in a common struggle against new imperialism and its lackeys? Or should we pin all our hopes on US-Soviet collaboration? When the Indian reactionaries attack socialist China, should proletarian internationalism be observed and the Indian reactionaries' provocations be denounced? Or should they be helped with arms to fight the brunt of the Soviet people?
L'individualité me semble devoir avoir une fonction, l'idée de transindividualité a une fonction dans sa pensée, c'est de faire en sorte de ne pas tout penser à partir d'un individu qui serait déjà donné, et donc d'une certaine façon déjà fermé. Il faut bien comprendre ce qui fait que nous sommes nous-mêmes et en même temps, nous sommes parmi les autres, avec les autres, nous parlons une langue qu'ils parlent, nous agissons avec eux, etc. Et ce transindividuel, c'est la solution, en tout cas l'hypothèse qu'il présente, pour qu'on puisse penser l'homme autrement qu'en partant de l'individu, ce qui condamne à y rester. Quand on parle d'individu, on y reste. Et autrement qu'en partant du pur social, du groupe. Parce que si on part du groupe, on n'arrive pas à atteindre l'individu. Et c'est cette pensée... L'idée n'est pas assez bien rendue par le mot inter-individuel, qui reste... qui reflète encore des individus qui sont déjà individus et qui sont séparés, qui ne se rejoindront jamais, qui ne pourront pas rendre compte de ce qui se passe réellement dans la vie humaine. Donc cette idée de transindividuel correspond justement à la solution d'un problème qui n'est résolu ni par la psychologie, ni par la sociologie, qui doit être pris autrement.
Il a cette part très personnelle, très inventive. On en a souvent discuté, on s'est dit que le fait qu'il était aussi inventif, aussi différent des autres de sa génération, des autres philosophes de sa génération, c'était sans doute qu'il s'était vraiment fait lui-même et qu'il s'était fait à partir de l'observation des trucs qu'il connaissait et qu'il n'avait pas du tout cherché à suivre un tel ou un tel, quoi. Il était comme ça brut et il construisait à partir de ce qu'il voyait et non pas à partir de ce que les autres avaient fait.
C'est pas un disciple, quoi.
Non, c'est pas un disciple. On peut dire
Là, on pourrait même dire c'est là.
Il avait clairement une pensée lui-même, de lui-même, et il a construit son parcours lui-même. Après, est-ce qu'il était plus distant ou moins distant parce
même
que
plus, on peut quand même imaginer que le fait qu'il ait été dans un milieu où il n'y avait pas ni philosophe, ni scientifique, ni... Mais des gens, bon, qui habitaient à la campagne et tout ça, il s'est forgé lui-même sa pensée et dès le plus jeune âge, il a commencé à interroger son entourage pour comprendre des choses. Et il s'est formé sa pensée, et une pensée comme ça très proche de, bah, des gens qui travaillent. Je pense qu'il n'aurait pas été comme ça s'il avait été dans un milieu très cultivé qui lui ait donné des tas de clés. Il s'est fait lui-même, quoi, en quelque sorte.
Il n'était pas d'un milieu... ses parents n'étaient pas pauvres, ils étaient receveurs des postes. Ça n'est pas d'eux que vient, en aucune façon, sa culture, quoi. Sans qu'il ait été, pour autant, défavorisé.
Non, pas du tout.
Il n'y a pas d'un milieu misérable, c'est pas ça, pas du tout.
Mais sa mère travaillait dans une centrale téléphonique et il la visitait parfois sur les lieux du travail, je pense, d'après ce que j'ai pu comprendre dans les entretiens. Il a pu être intéressé par ce dispositif technique déjà très jeune. C'est quand même magique quand on est un enfant, le téléphone, surtout à cette époque-là, il fait quelque chose de merveilleux, et de voir le dispositif technique qui relie les choses, les gens, les uns avec les autres, doit être assez fascinant.
Je ne sais pas pourquoi il s'est intéressé tout jeune comme ça à la technique.
Même les promenades étaient un moment d'explication ou d'observation. Sur les animaux, les plantes, enfin, des choses de ce genre. Mais l'observation et l'explication, c'était un préalable. En fait, la question, c'était de... À partir de l'observation, de l'explication évidemment, mais de l'observation, essayer de comprendre les relations les relations de cause à effet entre les différentes observations. Et c'est en ce sens que l'on passe des différents niveaux de culture scientifique, architecturaux ou autres, en observant ce qui se passe dans un domaine, ce qui se passe dans un autre. Et en faisant le lien, je pense qu'il a une grande partie de la vie courante qui était organisée de cette façon-là, et comprendre de façon très transversale la vie en général, avec une part d'explication historique, une part scientifique, une part de culture littéraire qui permettait de comprendre les choses, avec cette observation, mais qui avait le but d'emmagasiner pas seulement de l'information, mais de la relation de cause à effet entre...
Il avait très certainement un goût de la manipulation des choses, de la manipulation des matières en particulier. Il aimait cela, on voyait bien, certainement. Et de la manipulation des objets techniques aussi, par ailleurs. Je sais que dans l'entretien sur la mécanologie, on le voit à un moment, je crois, tourner un pas de vis, et certains commentateurs ont parlé de cette façon un peu fébrile de tourner, de dévisser quelque chose. Je crois que c'est pas du tout fébrile, c'est que c'est quelqu'un qui sait très bien qu'un pas de vis en laiton, c'est fragile. Donc le geste de la main doit être à la fois rapide et très léger pour ne pas tordre ce pas de vis. C'est une façon de respecter le pas de vis que de le faire tourner comme ça. Il aimait ça, c'est sûr. Il avait un sens de la matière et des formes.
Oui, alors il y a peut-être des réactions qui étaient plus personnelles ou plus instinctives que d'autres. Mais enfin, effectivement, il y avait derrière ça, quand même, fondamentalement, son point de vue d'un rapport à la nature et d'une forme de compréhension, en fait, de la nature, des hommes, de la technologie et autres, qui était derrière tout ça. C'était une forme de compréhension. Et ce qui nous manquait peut-être à nous, c'était justement l'ensemble de l'histoire, l'ensemble de la compréhension.
Les expériences... de sa part, qui en était de la part des enfants sur les différents produits, etc., était plutôt une façon de mieux connaître un ensemble de domaines, puisqu'il y a quelque chose qui me semble important dans son rapport avec la vie courante, qui c'est le fait d'allier différentes cultures, d'avoir une culture scientifique, une culture littéraire, mais pas seulement, parce que ça c'est connu, mais une culture architecturale. naturel, historique, et d'observer dans un grand nombre de domaines, de tester, d'observer, aller plus loin qu'observer, donc provoquer, faire des hypothèses et ensuite tester pour vérifier ces hypothèses, ce qui permet de mieux comprendre dans des domaines très divers. Et sans jamais opposer ou hiérarchiser ces différents domaines, comme on peut apprendre ainsi à ne pas opposer sciences et lettres, à ne pas opposer ce que l'architecture était en partie scientifique, et qu'il y avait le fait qu'il y ait un lien entre l'ensemble de ces domaines. Mon père était un admirateur de Le Corbusier, parce que comme architecte, avant l'esthétique, il avait une observation d'éléments, techniques dans son architecture et de liens avec la vie courante des personnes qui habiteraient quand il s'agissait de construction, d'habitation, dans ce qu'il construisait. Et souvent, il développait des anecdotes à ce point de vue-là sur Le Corbusier ou Claude-Nicolas Ledoux qui construisait la cité idéale avec une réflexion sur le sens de l'organisation de ce qu'il faisait, mais aussi dans d'autres essais de Claude-Nicolas Ledoux, des essais architecturaux, des constructions, enfin des projets qui n'étaient pas réalisables avec ce qui existait à l'époque. Il avait par exemple prévu des constructions avec des très grandes portées qui n'ont été réalisables, qui n'ont jamais été réalisées d'ailleurs, parce qu'il n'avait pas forcément plus d'intérêt, mais qui n'étaient réalisables qu'avec du béton armé, qui n'existait pas. Et ce genre de choses étaient typiquement les réflexions que nous pouvions avoir en échangeant sur les questions architecturales.
Il existe en certains cas une beauté propre des objets techniques. Cette beauté apparaît quand ces objets sont insérés dans un monde, soit géographique, soit humain. L'impression esthétique est alors relative à l'insertion. Elle est comme un geste. La voilure d'un navire n'est pas belle lorsqu'elle est en panne, mais lorsque le vent la gonfle et incline la mâture tout entière, emportant le navire sur la mer. C'est la voilure dans le vent et sur la mer qui est belle, comme la statue sur le promontoire. Le phare au bord du récif dominant la mer est beau, parce qu'il est inséré en un point clé du monde géographique et humain. Une ligne de pylônes supportant des câbles qui enjambent une vallée est belle, alors que les pylônes, vus sur les camions qui les apportent, sont neutres. Un tracteur dans un garage n'est qu'un objet technique. Quand il est au labour et s'incline dans le sillon pendant que la terre se verse, il peut être perçu comme beau. Tout objet technique, mobile ou fixe, peut avoir son épiphanie esthétique, dans la mesure où il prolonge le monde et s'insère en lui. Mais ce n'est pas seulement l'objet technique qui est beau. C'est le point singulier du monde que concrétise l'objet technique. Ce n'est pas seulement la ligne de pylônes qui est belle, c'est le couplage de la ligne, des rochers et de la vallée. C'est la tension et la flexion des câbles. Là réside une opération muette, silencieuse, et toujours continuée de la technicité qui s'applique au monde. L'objet technique n'est pas beau dans n'importe quelle circonstance, et n'importe où. Il est beau quand il rencontre un lieu singulier et remarquable du monde. La ligne à haute tension est belle quand elle enjambe la vallée, la voiture quand elle vire, le train quand il part ou sort du tunnel. L'objet technique est beau quand il a rencontré un fond qui lui convient, dont il peut être la figure propre, c'est-à-dire quand il achève et exprime le monde. L'objet technique peut même être beau par rapport à un objet plus vaste qui lui sert de fond, d'univers en quelque sorte. L'antenne du radar est belle quand elle est vue du pont du navire surmontant la haute superstructure. Posée au sol, elle n'est qu'un cornet assez grossier monté sur un pivot. Elle était belle comme achèvement structural et fonctionnel de cet ensemble qu'est le navire, mais elle n'est pas belle en elle-même, sans référence à un univers. C'est pourquoi la découverte de la beauté des objets techniques ne peut pas être laissée à la seule perception. Il faut que la fonction de l'objet soit comprise et pensée. Autrement dit, il faut une éducation technique pour que la beauté des objets techniques puisse apparaître comme insertion des schèmes techniques dans un univers, au point clé de cet univers.
Dans cette méconnaissance de la machine, qui n'est pas une aliénation causée par la machine, mais par la non-connaissance de sa nature,
c'est que
et de son
essence, l'objet technique,
par son
je pense que c'était peut-être l'aspect le plus novateur par rapport à ce que pensaient les gens à cette époque, c'est la beauté de l'objet technique. Bon, c'est cet aspect esthétique. Alors, l'antenne du Pila, il nous en parlait, mon frère François en parle souvent, puisqu'il habite à côté. Mais ce qui m'a le plus frappé, moi, c'est pas ça, c'était les pylônes, les lignes à haute tension. Et les pylônes, alors là, il en parlait tout le temps, et il en parle dans ses livres. Et à chaque fois qu'on venait de Tours à Tence, donc en Haute-Loire, en vacances, quand on traversait une vallée, grande vallée avec des pylônes et puis des lignes à haute tension, à chaque fois, il disait « Regardez les petits comme c'est beau, regardez les petits comme c'est beau ». Et à l'époque, je regardais, je ne savais pas si c'était beau ou pas. Mais depuis, maintenant, j'ai cette... ça m'est resté, si vous voulez. Et à chaque fois que je suis dans un paysage où il y a une ligne à haute tension avec des pylônes, pas forcément une ligne à haute tension, mais des pylônes avec une ligne, hein, des fils, c'est vrai que je suis frappée, la plupart du temps, par l'aspect très esthétique et très complémentaire entre ces grands pylônes qui enjambent la vallée et la vallée. Et récemment, il y a 2 ou 3 ans, j'avais mes chevaux, je me souviens, dans un pré, qui était traversé par des pylônes. Et j'ai pris je ne sais combien de photos de ces chevaux sous les pylônes, parce que je me disais ça lui aurait plu, d'avoir les chevaux. Alors que c'est très désagréable, hein, sous une ligne, ça fait beaucoup de bruit. Et bon. Mais oui, ça m'est resté, cet aspect esthétique, comme des objets, je vous montrerai, j'ai une lampe à huile, là. Et, par exemple, là, il y avait des objets assez anciens, très simples, et il était extrêmement attentif, à la fois à la perfection de l'objet, c'est-à-dire qu'il était exactement fait pour cet usage-là et bien conçu par rapport à cet usage, mais aussi son aspect esthétique. Enfin, il aimait beaucoup, ben, par exemple, les lampes à huile, les vieilles lampes, ou que ce soit des lampes grecques de l'Antiquité, ou que ce soit des lampes de mineur.
Son activité a un rôle constitutif extrêmement fort.
Métallique, alors. Oui. Justement, alors c'est pas tellement l'objet en lui-même, c'est l'objet avec son inscription dans le paysage. C'est cet ensemble qui était l'objet technique dans cet univers naturel et qui se marie particulièrement bien avec. C'était ça, hein, cette dimension esthétique, c'était l'ensemble, c'est la complémentarité entre les deux. Et je pense que, enfin c'est l'objet lui-même, je trouvais beau, mais si vous voulez, particulièrement beau parce qu'il y avait, comme je pense que le viaduc de Millau, il l'aurait trouvé magnifique. Parce que c'est une prouesse technique, mais aussi parce qu'il y a tout ce paysage derrière. Quoi. Il aimait beaucoup, par exemple, le... Alors, vous n'êtes pas passé par là, donc vous ne l'avez pas vu. Il faudrait aller un petit peu plus au sud sur l'autoroute. Le viaduc de Garabit, qui a été construit par Eiffel. Enfin, surtout par des assistants d'Eiffel, qui enjambe une rivière qui s'appelle la Truyère, qui n'est pas loin d'ici, 40 km au sud d'ici, en allant vers Montpellier. Et qui, là aussi, est typiquement ce qu'il aimait comme objet technique, comme réalisation technique. Hein, parce que c'était, bien sûr, très intéressant sur le plan technique, mais aussi parce que ça se mariait avec un paysage. C'est cet ensemble. Et je suis complètement d'accord avec ça. C'est quelque chose qui me barbait un peu quand j'étais petite, parce que bon, c'était quand même tout ça du baratin pour moi. Et puis en fait, à l'usage, je me rends compte que j'ai été imprégnée et que très souvent, je trouve que oui, un objet technique est dans son univers particulièrement adapté et qu'il est beau. Oui, c'est vrai, c'est vrai.
La phanérotechnie est déjà par elle-même esthétique. La tour Eiffel, tour de l'exposition, et le viaduc de Garabit sur la Truyère ont une indéniable force esthétique. À sa naissance, la tour Eiffel n'avait guère de fonction pour justifier son érection, sauf d'être un belvédère élevé. Mais elle a bientôt été la meilleure antenne d'émission de France. Elle est encore, et même de plus en plus. Les aériens de télévision surmontent son dernier étage et l'agrandissent encore. Garabit, sur la Truyère, est encore peut-être plus merveilleux par la forme en chaînette inversée de son arc principal et par le scellement dans les rochers des piétements. Et aussi parce qu'il est en pleine nature. Il traverse la nature et est traversé par elle. Et aussi, et encore plus peut-être, par les conditions de sa construction. D'abord, deux demi-ponts parallèles et appliqués contre les deux collines, puis le jour de la jonction, s'il avait fait du vent, ça aurait pu être la catastrophe. Mais il n'y aura pas de vent, avait dit Eiffel. Et en effet, il n'y a pas eu de vent. Les deux demi-ponts tournèrent lentement et simultanément de 90 degrés sous la traction des câbles. Ils vinrent s'appliquer de leurs extrémités l'un contre l'autre et furent verrouillés. Et depuis ce temps, le viaduc existe en son unité, en sa pleine perfection. C'est bien une œuvre de techno-esthétique parfaitement fonctionnelle, parfaitement réussie et belle, simultanément technique et esthétique, esthétique parce que technique, technique parce qu'esthétique. Il y a fusion intercatégorielle.
Le travail sur la technique n'est pas une façon de se détourner de l'esthétique, c'est plutôt une façon de hisser la technique un peu à un niveau comparable à celui de l'esthétique, mais c'est bien parce que ça comptait aussi.
Oui, je pense que ça fait partie aussi de cette bonne volonté qu'il avait de comprendre l'ensemble de la chaîne. En fait, la radio, par exemple, c'est un ensemble constitué d'un certain nombre de composants, comme une lampe, enfin une triode, par exemple, et puis ensuite des choses plus compliquées. Et son analyse des flux à l'intérieur d'une triode, par exemple, je crois que c'est aussi fait pour expliquer les raisons pour lesquelles on a voulu progresser dans ce type de technologie. C'est-à-dire qu'on a d'abord imaginé une triode, puis ensuite une pentode, par exemple, pour corriger en fait les défauts constatés de la triode, etc. Toutes ces explications-là, toute la peine qu'il s'est donnée pour comprendre ça, d'ailleurs qu'il a lui-même expérimenté, puisqu'il manipulait pas mal les montages, c'était pour comprendre la démarche intellectuelle qui était derrière la forme de progrès que représentaient ces différents composants. Tout droit.
Ce savoir sur les objets techniques, ou ce savoir technique, on le voyait bien à l'œuvre, évidemment, dans sa façon de se servir lui-même des choses. Il faisait beaucoup de choses, il avait des outils, il réparait sa voiture, enfin, il faisait plein de choses comme ça. Mais on voyait autre chose, c'est qu'il était réellement dans la perspective du technologue et du savant, parce qu'il essayait de continuer quand même enfin de faire progresser les inventions techniques. Il a travaillé des inventions techniques. Il a travaillé, par exemple, beaucoup. Il a fait beaucoup de recherches dans ce qu'on appelle la modulation. Il a travaillé très longtemps à une invention de phare non éblouissant, parce qu'il était très préoccupé par la sécurité des hommes. Il faut prendre des risques, mais des risques intelligents. Et l'un des sens de la recherche sur la perception qu'il a menée presque toute sa vie, c'est en partie de guider une recherche d'invention pour des phares non éblouissants. Alors la modulation, ça correspond à des travaux un petit peu plus précoces, notamment au moment où il s'instruit beaucoup de tout ce qui est amplification, tout ce qui est... C'est lié en particulier à ses études sur les lampes, etc., sur l'électronique.
Je crois que c'est vraiment la clé de sa façon à lui d'être. c'était qu'il avait, comme je vous dis, l'entière compréhension de ses connaissances, ce qui, je crois, honnêtement, est rare. Beaucoup de gens ont des connaissances, encore une fois, mais j'en ai presque jamais rencontré, qui est l'entière compréhension de leurs connaissances. Et avec des couches successives et des degrés de complexité différents.
Vous parliez de l'aspect pensée en avance sur son temps. Mais c'est vrai qu'avec le recul, j'ai été frappé en lisant des parties par certains aspects qui prouvent qu'il y avait en effet une réflexion, pas décalée dans le temps, mais sur certains sujets très en avance. J'ai été frappé récemment par un passage dans un cours sur... sur le thème de la fusion nucléaire. Et en quelques pages, il développe le fait que la fusion nucléaire, au-delà... Alors, il y a un développement sur le fait que la fusion est de nature à résoudre des grands problèmes de l'humanité en matière d'écologie, sinon, c'est-à-dire de ressources, avec une source d'énergie sensationnelle, enfin très importante et infinie même, sans pollution. Alors une explication intéressante sur le plan physique, donc c'est technique et intéressant sur ce que pourrait être la fusion, en prenant les références sur différentes œuvres. Mais surtout, l'analyse philosophique, c'est de dire, y a quelque chose que la fusion peut faire, c'est détruire les déchets radioactifs de la fission. Et tout de suite après, il s'interroge en disant, du coup, est-ce qu'on n'a pas, dans une science qui progresse, une forme de rédemption, c'est-à-dire une capacité à réparer les erreurs, entre guillemets, en tout cas les inconvénients du passé, d'une science moins aboutie. Et ça date des années 80, c'est quand même ancien. C'est la réflexion sur le fait que la fusion nucléaire, qui est encore un beau projet, puisse d'une part résoudre des problèmes énergétiques, mais d'autre part... on trouve en elle-même, dans la science, la capacité de résoudre ces erreurs de jeunesse. J'ai trouvé ça d'abord assez prémonitoire. Enfin, en tout cas, j'espère que ça s'appliquera. Et aussi d'un bel optimisme, quand même. J'avais trouvé ce genre d'analyse très caractéristique de l'état d'esprit. Une grande confiance, enfin, un grand optimisme en matière de capacité de la science et de la technique à résoudre les questions de l'humanité.
L'un des aspects de son travail, ça consistait évidemment à exploiter les recherches qu'il faisait en matière technique et les recherches qu'il faisait en psychologie, c'est-à-dire essentiellement sur la perception, pour essayer d'améliorer le rapport entre l'homme et la technique, mais du point de vue de la sécurité, par exemple. Il a fait partie assez longtemps d'une commission de prévention des catastrophes et il travaillait en particulier à la façon dont les signaux, la communication visuelle peut permettre d'éviter des accidents. Ainsi, si on a les bons voyants au bon endroit, on évite de mal se servir d'une machine et de faire un accident. Si la communication est bien instaurée par toute une série de moyens, sur la radio ou autre chose, on peut prévenir, on peut vraiment sauver beaucoup de vies pendant une catastrophe. À grande échelle, hein. Il avait participé à des études après la catastrophe de Fezzan, par exemple, qui était une explosion dans une raffinerie ou des choses comme ça. Donc, il était très préoccupé de ce qu'on pouvait faire pour limiter les dégâts causés par la technique, pour dire les choses ainsi. La technique est dangereuse, mais on peut faire quelque chose. Et on peut faire quelque chose aussi avec des solutions techniques, contre la technique.
Les idolâtres de la machine présentent en général le degré de perfection d'une machine comme proportionnel au degré d'automatisme. Dépassant ce que l'expérience montre, ils supposent que par un accroissement et un perfectionnement de l'automatisme, on arriverait à réunir et à interconnecter toutes les machines entre elles, de manière à constituer une machine de toutes les machines. Or, en fait, l'automatisme est un assez bas degré de perfection technique. Pour rendre une machine automatique, il faut sacrifier bien des possibilités de fonctionnement, bien des usages possibles. L'automatisme et son utilisation sous forme d'organisation industrielle que l'on nomme automation possède une signification économique ou sociale plus qu'une signification technique. Le véritable perfectionnement des machines, celui dont on peut dire qu'il élève le degré de technicité, correspond non pas à un accroissement de l'automatisme, mais au contraire au fait que le fonctionnement d'une machine recèle une certaine marge d'indétermination. C'est cette marge qui permet à la machine d'être sensible à une information extérieure. C'est par cette sensibilité des machines à de l'information qu'un ensemble technique peut se réaliser, bien plus que par une augmentation de l'automatisme. Une machine purement automatique, complètement fermée sur elle-même dans un fonctionnement prédéterminé, ne pourrait donner que des résultats sommaires. La machine qui est douée d'une haute technicité est une machine ouverte. Et l'ensemble des machines ouvertes suppose l'homme comme organisateur permanent, comme interprète vivant des machines les unes par rapport aux autres. Loin d'être le surveillant d'une troupe d'esclaves, l'homme est l'organisateur permanent d'une société des objets techniques qui ont besoin de lui comme les musiciens ont besoin du chef d'orchestre. Le chef d'orchestre ne peut diriger les musiciens que parce qu'il joue comme eux, aussi intensément que tous, le morceau exécuté. Il les modère ou les presse, mais est aussi modéré et pressé par eux. En fait, à travers lui, le groupe des musiciens modère et presse chacun d'eux, il est pour chacun la forme mouvante et actuelle du groupe en train d'exister. Il est l'interprète mutuel de tous par rapport à tous.
La technique est dangereuse, il le sait. Il sait qu'une civilisation, une société peut être, comme il dit, mal technicienne. non pas trop technicienne, mais mal technicienne. Il sait que il y a, dans l'amour pour la technique, il y a une tendance à la technocratie. Le technicisme est très mauvais. Enfin, il le sait. Il sait aussi que, pour autant, la technique fait partie de l'aventure humaine et qu'elle est même d'autant plus importante qu'elle est un domaine dans lequel le jugement peut se former et doit se former et doit améliorer, si je puis dire, le problème moral. Donc il attend quelque chose d'une culture technique, il attend quelque chose d'un jugement qui serait formé entre autres à partir de la connaissance de la technique. Parce que la technique, ce n'est pas seulement les lois de la nature et tout ce qui peut relever de la science, c'est aussi ce qu'on a cristallisé dans un objet en visant un projet. Et du coup, l'objet technique, d'une certaine façon, appelle dans notre jugement à la fois des considérations de jugement théorique et scientifique, et des considérations du point de vue de la valeur, du jugement moral, peut-on dire. Et à ses yeux, le jugement technique bien conduit, qui est instruit et qui a bien compris ce que c'est qu'un objet technique, permet justement, en quelque sorte, de faire un pont entre deux choses qui seraient sinon incapables de communiquer et qui sont le jugement scientifique, qui est quand même un rapport au vrai, et le jugement moral qui, lorsqu'il est seul, ne sait faire qu'une distinction abstraite entre le bien et le mal, et est purement négatif. Donc la technique, en un sens, est dangereuse, Mais on ne peut pas se permettre de la négliger, d'une part parce qu'elle est dangereuse, d'autre part parce qu'on peut en attendre beaucoup pour la culture, et là, je dirais, la culture du jugement, y compris dans une perspective morale. On a à apprendre de ce que les objets techniques ont à nous dire.
Et effectivement, l'objet technique pour lui était important comme, encore une fois, comme médiateur, enfin important, indispensable, je dirais, comme médiateur pour tout ce que l'homme fait en rapport avec la nature. Et donc, à ce titre, il est très important de bien l'utiliser, de bien le concevoir, de le respecter. Enfin, tout ça va ensuite assez logiquement quand on replace l'importance de l'objet technique dans la façon de vivre de l'homme. Je crois que c'est surtout cet environnement-là pour lui. L'objet technique est une donnée essentielle de la façon dont l'homme vit dans la nature.
Mais moi, on le vit au quotidien. Tout à l'heure, Monsieur Giraud parlait du bois comme caisse de résonance pour les appareils radio. Et les masses, par exemple, les marteaux pour les grosses masses pour enfoncer les piquets en bois, les piquets de clôture. Moi, je fais beaucoup de clôture. Eh bien, ce qui va bien, c'est la masse en fer et le manche en bois. Il y a eu des essais de manches en résine ou en plastique dur. Et les vibrations que ça transmet sont très douloureuses, en fait. Et on est beaucoup moins